Le vidéaste, il est Frédéric Violeau, réalise actuellement un film documentaire en partenariat avec Oya Film et Sanossi Productions qui aborde la question de l'enracinement des jeunes sur les lieux. Bonjour Frédéric.
Bonjour Roland, bonjour à tous.
Ça va bien, en pleine forme hein?
Ouais, très bien, merci.
Comment as-tu traité ce sujet de l'enracinement des jeunes de l'Île-Dieu ?
Alors, je dois dire qu'il y a deux choses qui se sont rencontrées. D'un côté, moi, mes lectures, mes réflexions sur voilà, comment la société évolue. Puis je voyais bien un peu d'inquiétude aussi de la part des gens à l'Île-Dieu. Et puis un pique-nique. Pique-nique au Puy Marie-Françoise.
Entre là, potes ?
Exactement. Pique-nique du dimanche. Et c'est vrai que la plage du Puy Marie-Françoise, ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir les racines des arbres, petit à petit, mises à nu par la montée de la mer, l'érosion de la mer.
L'érosion lunaire, ouais.
Exactement. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait le lien entre la question de ces racines-là de la mer...
Qui s'en vont.
Voilà, exactement, les racines mises à nu par la mer, les grandes marées, et puis un risque de perte de racines de la population. Donc voilà, c'est un petit peu le point de départ. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a un élément dans la vie de l'Île-Dieu qui parle aussi de racines, c'est la fête des fleurs. Parce qu'effectivement, pour faire la fête des fleurs, ben, il faut des fleurs, et les fleurs, ça pousse, ça a des racines sur l'île.
Et il y a des exilés qui reviennent exclusivement pour la fête des fleurs.
Absolument, c'est un...
C'est une fête entre potes.
C'est un événement fédérateur, plus que des potes. C'est intergénérationnel, c'est absolument phénoménal. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'est que non seulement c'est un moment pour moi de communion dans la population de l'Île-Dieu, mais c'est aussi un moment de partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rejet, et moi je ressens ça très fort à l'Île-Dieu. On n'est pas dans l'exclusion. On sait que maintenant, le tourisme a une place importante. Et notamment les jeunes que j'ai filmés, je vais te raconter ça aussi un petit peu, ils ne sont pas du tout dans ce rejet de l'extérieur. Ils savent qu'ils vivent du tourisme. Beaucoup travaillent dans ce secteur-là, plus ou moins directement.
Et de toute façon, le tourisme, maintenant, c'est une obligation sur l'île-Dieu.
Voilà, c'est ça. Donc tout ça se rencontre. Et je me dis qu'à travers cette fête des fleurs, qui est un événement social absolument phénoménal à l'île-Dieu...
Multigénérationnel.
Voilà, ça permet de raconter quelque chose qui va en fait au-delà de la problématique du logement, au-delà de la problématique de l'environnement, c'est vraiment une question culturelle. Et donc, de l'avenir de l'île.
Ce que tu nous dis donc, Frédéric, c'est que tu as interviewé des jeunes îlets et des jeunes îlaises.
Exactement. Il y a plusieurs dimensions dans le film, mais vraiment le fil rouge, c'est donc cette question de la préparation de la fête des fleurs par un groupe de jeunes qui va le faire pour la première fois sans leurs parents. C'est pas la première fois qu'ils la font, mais ils s'autonomisent. Ils ont une vingtaine d'années.
Ils ont commencé avec leurs parents. Exactement. Et maintenant, c'est des potes et ils font la fête des fleurs entre eux. Entre elles.
Exactement. Ils l'ont faite pendant des années avec leurs parents, donc ils portent ça en eux. Ils savent ce que c'est la fête des fleurs. Ils n'ont pas seulement été spectateurs, ils ont été des jeunes acteurs. Et puis à un moment donné, rendus à 20 ans, ils font exactement comme leurs parents ont fait. C'est-à-dire qu'ils décident entre copains de se dire c'est notre tour. On n'a plus besoin des parents, on le fait entre nous parce que ça va être une super fête. Et je pense qu'ils en sont conscients, mais c'est aussi une façon pour eux de s'affirmer. Sur le territoire, c'est de dire, on n'est plus des gamins, on est des adultes maintenant, des jeunes adultes, ok, mais ils sont tous actifs, ils bossent, et ils ont envie de dire au reste de la population et aux gens qui viennent, voilà, nous on prend le relais, on est la suite, on est la relève.
La fête des fleurs, on l'a bien compris, c'est le fil rouge. L'enracinement, quelle question tu auras posé à ces jeunes îlets et îlaises ?
Ouais, c'était vraiment la problématique de comment on reste sur l'île. Alors bon, moi c'est une problématique qui me touche et que je connais, parce que j'ai fait mon premier film ici à l'Île-Dieu il y a plus de 15 ans, c'était déjà sur la problématique du logement, mais je ne l'avais pas abordé sous l'angle culturel. Là, à travers la fête des fleurs et à travers ce groupe de jeunes, parce que les gens que j'avais filmés il y a 15 ans, ils étaient plutôt la trentaine d'années, là, c'est plutôt leurs enfants, qui ont une vingtaine d'années. D'ailleurs, il y en a même une, c'est l'enfant d'un couple que j'avais filmé il y a 15 ans.
C'est drôle, le monde est petit.
Ouais, voilà, et puis voilà, l'histoire continue, c'est ça qui est hyper important. Donc, je traite la question de l'enracinement à travers la question du logement, on va dire de façon très, très concrète, mais aussi de la question culturelle. C'est-à-dire que pour moi, l'enracinement, ce n'est pas juste trouver une maison, trouver un terrain et faire sa vie sur l'île. C'est s'ancrer dans la culture locale. Et au tout début du film, je vais mettre une citation d'une philosophe un peu, peut-être passée de mode, mais qui parle de quelque chose de très important par rapport à l'enracinement. C'est la préservation des trésors du passé et la culture des pressentiments de l'avenir. Et je pense qu'on en est là, à l'Île-Dieu, et la fête des fleurs, c'est ça, c'est un trésor du passé, ça date des années 60, Henri Arquillière, Maréchin et bien d'autres qui ont créé ça. Et la question, c'est comment on se projette dans l'avenir. Donc c'est vraiment ça, pour moi, la question de l'enracinement, c'est le logement, mais c'est aussi une question culturelle de comment on pense la suite de la vie de l'Île-Dieu.
Tu nous l'as dit, ces jeunes ont à peu près 20 ans, est-ce qu'ils sont motivés à rester sur l'Île-Dieu ? Est-ce que c'est une envie, un souhait ?
Je pense que c'est même plus que ça, c'est quelque chose qui est assez viscéral pour eux, ils ont ça en eux, dans les tripes, Et je vois bien, certains ont déjà trouvé des terrains, donc ils sont dans ce processus de construire des maisons. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, pour ceux qui attendent, par exemple, le tirage au sort de la mairie, tout ça, il y a une espèce de, plus que de l'inquiétude, hein. Moi, je pense que ça commence à être un peu de la peur de se dire, mais comment on va faire si on ne trouve pas, alors qu'il y a de moins en moins de locations? Comment on va pouvoir rester vivre sur l'île alors que le travail, ce n'est pas un problème? Donc, pour eux, et vraiment cette génération, certains m'ont dit d'ailleurs que leurs frères et sœurs un petit peu plus âgés, ce n'était pas forcément cette problématique-là qui les animait, mais eux, ces jeunes de 20 ans, ce groupe, hein, donc on fait la fête des fleurs, je peux le dire, c'est le char Hillfest, presque tous ont absolument envie de rester vivre et faire leur vie sur l'île.
La grosse problématique, on a bien compris, c'est le logement.
Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions, ces jeunes?
Ça dépend. Alors, certains ont des terrains de famille, donc voilà, on peut dire que c'est résolu. On sait malheureusement que personne ne peut racheter une maison à cet âge-là. Quand on gagne un salaire moyen, on va dire, on ne peut pas acheter une maison à l'île dure. On voit bien le prix de l'immobilier. Donc, la question maintenant, c'est vraiment celle du foncier. Il faut trouver des terrains. Si on n'a pas de terrain de famille, il faut en acheter. C'est encore possible. Certains ont réussi. Et puis, ben, sinon, ça veut dire qu'il faut attendre les solutions, on va dire, collectives. Il y a eu un tirage au sort de la mairie. D'ailleurs, l'un d'entre eux a pu bénéficier d'un terrain. Et puis, ils attendent les prochaines ouvertures de lotissement avec des tirages au sort, ou peut-être un autre mode de désignation. Mais en tout cas, il y a une attente hyper forte de leur part de trouver une solution.
Et s'ils n'arrivent pas à se loger, ils font comment? Ils restent tout de même sur l'île en location? S'ils trouvent une location, ou ils s'en vont sur le continent?
Non, non, ils sont dans l'optique de rester. Pour l'instant, ils sont jeunes, justement. Hein, et moi, je les invite d'ailleurs à garder cet espoir-là. Il faut absolument, et puis pas que pour eux, hein, pour toute l'île, il faut absolument qu'ils restent motivés à l'idée de rester vivre sur l'île. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Au bout de 10 ans de location, voilà, il y a une espèce de fragilité aussi à être en location. Votre propriétaire peut décider à un moment donné que ça s'arrête. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ils se diront, ben non, il y a une forme de précarité, nous, on veut s'installer. Et peut-être qu'ils se projetteront ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, tous, ils veulent faire leur vie sur l'île, ils veulent trouver une solution et ils sont attachés à leur enracinement culturel.
Ça a été simple de les faire parler?
Oui, franchement. Ouais. Alors, je vais vous dire que j'ai quand même un petit peu de chance et je vais remercier... alors, je ne vais peut-être pas donner de nom tout de suite, mais vous les verrez dans le film. Mais
tu c'est peux vrai donner des prénoms?
Ouais, ben voilà, Kevin, Jules, Julie, Julien. Il y en a quelques-uns que je connaissais très bien parce que c'est les enfants de mes amis. Moi, voilà... Je suis pas de l'île-dieu, je peux le dire, pas de problème. Mais ça fait 40 ans que je suis venu. Parce que mon père est venu travailler sur l'île et du coup, je suis resté. Donc, je me suis moi aussi d'une certaine façon enraciné, mais après coup. Et donc, c'était assez facile de les faire parler parce que la plupart me connaissaient. Je pense à des gamins aussi que j'ai entraînés au volet. Et ceux qui me connaissaient pas, ben, je connaissais leurs parents. Enfin, voilà, on a toujours créé des liens. La parole a été assez facile à venir.
T'interviewais ces jeunes. Est-ce que t'interviewais aussi les parents pour avoir leur ressenti, leur retour?
Alors non, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment le parti pris, c'est de suivre ces jeunes pendant toute la fabrication du char. Donc c'est ce que j'ai filmé au printemps, hein, depuis le mois de janvier-février, jusqu'évidemment au défilé du 19 mai. Et je me suis dit, je me concentre sur eux. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi une autre protagoniste que je peux évoquer là, parce que je pense qu'elle mène des études qui sont vraiment importantes en ce moment sur l'île. Et il y a un lien entre l'environnement et le social pour moi, c'est Elsa Cariou. Moi, j'ai pu participer à plusieurs réunions qu'elle organise, là, notamment le samedi, autour du marais salé et du port.
Elsa Cariou, notamment, elle présente et elle est dans les problématiques d'érosion.
Exactement, c'est vraiment le suivi du littoral.
Érosion dunaire.
Et ce qui est intéressant avec Elsa, c'est que bah, c'est une fille de l'île-dieu. Donc, elle connaît très bien le territoire et puis elle a une approche scientifique. Ça veut dire qu'elle a aussi le recul pour analyser les choses dans un aspect historique, dans un aspect, voilà, différentes dimensions scientifiques. Elle est au-delà de l'émotion. Elle est au-delà de cette inquiétude, mais qu'elle partage parce qu'elle a aussi des engagements associatifs. Et elle nous apporte quelque chose dans l'analyse du territoire qui, pour moi, fait sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, l'île-dieu est aujourd'hui un territoire fragilisé à plusieurs endroits, le côté environnemental, le côté social, et que tout ça, c'est un petit peu lié, que l'inquiétude que moi, je ressens, elle vient de tout ça, mais que grâce à la fête des fleurs et grâce à la motivation de ces jeunes et à l'implication de gens au niveau associatif comme Elsa Cariou et d'autres, ben on voit qu'il y a une énergie à l'île-dieu. Franchement, et c'est ça qui est formidable.
Une énergie pour trouver peut-être des solutions.
Exactement. On n'est pas dans le pessimisme, dans le fatalisme. On est dans l'idée que oui, la situation est compliquée, mais on peut y arriver. Et je prends pour exemple ben, la dernière grosse pétition qu'il y a eu et un message que moi j'ai entendu d'ailleurs sur votre antenne de la mairie de l'île-dieu qui a pris un peu les choses en main et qui a peut-être trouvé des solutions pour ce fameux terrain. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Tout le monde peut écouter le podcast avec Manu Maillard. Mais voilà, moi je trouve que ça typiquement c'est l'exemple qu'on peut trouver des solutions et qu'il faut un peu se battre pour l'avenir de l'île.
Est-ce que ce film documentaire a déjà un nom ?
Alors, pour l'instant, moi, je l'intitule « Les Grandes Marées ». Et je vais vous expliquer pourquoi. La Grande Marée, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la montée des eaux, l'érosion au puits Marie-Françoise qui dénude les racines des arbres. Mais pour moi, la Grande Marée, c'est aussi la marée humaine du défilé du 19 mai. Et c'est un peu le contre-coup.
Pendant la fête des fleurs.
Voilà, c'est-à-dire que oui, il y a une marée qui peut peut-être donner l'impression que l'île peut être submergée.
Marée touristique aussi, non ? Est-ce que c'est évoqué dans ce film documentaire ?
Un petit peu. Je pense qu'on verra quelques images. Loin de moi l'idée de créer du conflit et de donner l'impression qu'à l'Île-Dieu, il y a du rejet du tourisme. Parce que c'est pas vrai. Encore une fois, les jeunes de l'île, je sens bien, beaucoup vivent du tourisme et ils sont pas dans un rejet de l'autre. Ils veulent trouver des solutions pour l'avenir de l'île, pour eux, mais aussi pour les touristes. Parce que si on réfléchit deux secondes, bah, le jour où il y aura moins d'îlets et qu'on sera moins en capacité de fournir des services, les résidents secondaires aussi auront un problème. Donc on n'est pas dans cette dimension-là. Mais effectivement, grande marée de la mer, grande marée populaire, grande marée culturelle du défilé de la fête des fleurs, pour moi c'est hyper important pour dire que justement il y a un avenir, il y a une énergie folle sur cette île et qu'il faut la faire vivre.
Ce film documentaire donc va s'appeler Grande Marée.
Pour l'instant, il s'appelle Les Grandes Marées, mais tu sais, moi, ma petite expérience maintenant me dit que c'est au montage qu'on trouve les solutions. Et justement, c'est un petit peu ça aussi. La raison de mon appel à mécénat, c'est que maintenant, le gros enjeu de ce film-là, que le tournage est presque terminé, c'est vraiment de financer le montage du film.
J'allais te poser la question, où en es-tu de ce projet ? Car tu fais appel au mécénat, aux dons d'entreprises et particuliers.
Ouais, exactement. Alors, pour dire un petit peu rapidement, c'est un film qui se fait avec très très peu d'argent. Heureusement, Oya Film a du matériel et mon collègue Olivier Gadal est d'un grand soutien. Donc, moi je suis là, j'ai filmé. C'est moi qui ai fait l'image et le son. Maintenant, je n'ai pas toutes les compétences, loin de là. Et là aussi, mon expérience d'il y a quelques années me montre que la question du montage, c'est essentiel pour faire un film qui ne soit pas juste un reportage, mais qui raconte vraiment quelque chose d'un peu plus ambitieux.
Il faut que ça soit dynamique.
Exactement.
C'est à 52 minutes d'ailleurs ?
Ouais, c'est ça, 52-60 minutes. La question du montage, c'est pas celle de mettre les images bout à bout, parce que ça, moi, je pourrais le faire. C'est de raconter une histoire, et pour ça...
Il faut qu'il y ait un fil rouge.
Exactement, et il faut qu'il y ait un point de vue extérieur d'un monteur ou d'une monteuse, parce que j'ai trouvé une monteuse que le projet intéresse. C'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience. Elle peut pas faire le projet bénévolement. Il faut qu'on finance son travail.
Ça coûte combien ?
Eh ben, je crois que je dis les choses, hein, mais en gros, ça coûte 2000 euros la semaine. C'est-à-dire que c'est pas elle va pas toucher 2000 euros la semaine. Vous voyez, là, je suis du point de vue de l'employeur, avec les cotisations sociales, tout ça. C'est des compétences importantes, ça coûte 2000 euros la semaine. On considère qu'on a besoin de 8 semaines de montage pur. Ensuite, il y a une semaine d'étalonnage pour les couleurs et une semaine de mixage pour le son. Ça fait 10 semaines. À 2000 euros, ça fait 20 000 euros.
Tu cherches 20 000 euros.
Exactement.
Comment te contacter si des personnes sont intéressées par ce mécénat, dont d'entreprises ou particuliers ?
Alors, ce que je veux aussi préciser, c'est du mécénat défiscalisé. On peut bénéficier d'un abattement fiscal, c'est-à-dire que si on donne 500 euros pour un particulier, par exemple, ben, ça revient à 160 euros, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a 66% d'abattement fiscal. En tout cas, ça revient. Voilà, on bénéficie d'une réduction d'impôt. Pour les particuliers, pour les entreprises, le taux est un petit peu différent, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Donc, ben voilà, si une entreprise met 1000 euros, en fait, ça lui coûte 400. Tout est indiqué dans la Gazette Annonce. Dans le numéro 9, c'est à la page numéro 5. Ça va également paraître dans les deux prochains numéros de la Gazette au mois de juillet.
Qui ne s'appelle plus la Gazette.
Pardon, l'Écho de Lille. Et merci à Freddy Guérino pour son soutien aussi dans la parution de ces annonces. Donc voilà, il y a toutes les informations, il y a une adresse mail, il y a des informations...
Mais si tu veux donner ton adresse mail et ton numéro de téléphone, je t'en prie Frédéric.
Eh ben, très bien, merci beaucoup. Donc l'adresse mail, c'est une adresse spécifiquement créée pour les besoins du film, ça s'appelle tout attaché les grandes marées film, alors les grandes marées évidemment au pluriel, film au singulier, @gmail.com et mon numéro de téléphone c'est le 07 82 75 44 32. Évidemment, je peux rencontrer les gens, je peux expliquer les choses. Je vais d'ailleurs, moi aussi, démarcher les entreprises. Je peux déjà dire qu'il y en a quelques-unes qui ont accepté généreusement de participer. Donc, on a déjà, on va dire, entre 10 et 20% du montant qui est trouvé. Il reste une grosse partie du travail à faire. Ce que je veux dire, c'est...
Est-ce qu'on retrouve cet appel à mécénat sur Internet ?
Alors, on va le mettre maintenant, ouais. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Pour juillet-août, on va faire des publications sur Facebook et on va voir sur le site d'Oya Film. On se donne le temps de trouver l'argent et on fera le montage en fin d'année, voire début 2025. L'idée, c'est qu'au mois de mars-avril 2025, on puisse montrer le film ici à Lille-Dieu.
Est-ce que tu aimerais que ce film documentaire navigue notamment sur des télés locales, dans des festivals ?
Alors absolument, bien sûr. Le film, il faut qu'il soit vu, pas seulement à Lille-Dieu. Je pense que vraiment la population de Lille-Dieu peut attendre ça, parce que je crois que c'est vraiment un film qui sera très ancré dans la réalité de Lille, qui va raconter, moi, ce qui me semble une histoire importante pour la suite et pour l'avenir de Lille. Mais évidemment, on veut aussi le montrer ailleurs. Alors, ce qui s'est passé là, en fait, c'est qu'on a proposé le projet à France 3, ils ne l'ont pas voulu. Mais avec le producteur, on se dit qu'on peut financer le montage, on va le faire, et puis on va leur reproposer. Le
producteur, c'est Sanofi ?
Sanofi Productions. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de Sanofi Productions. Ils ne sont pas dans la région Pays de la Loire, ils sont un peu plus loin. Mais c'est une boîte qui a beaucoup d'expérience. Ils ont déjà eu des films sélectionnés au Festival de Cannes. Alors, moi, je ne me positionne pas là-dessus, pas de problème. Ils font aussi des films pour la télévision, et c'est très bien. Mais c'est vraiment une société très bien établie, avec qui on travaille en bonne intelligence. Donc, des gens de grande crédibilité. Donc, on va faire le montage et le reproposer à France 3. On le proposera aussi certainement à TV Vendée. Et puis après, il y a les festivals. Et c'est vrai que moi, il y a un festival qui me tient à cœur particulièrement. Ce n'est pas le festival de Cannes, c'est le festival de Groix.
Les Insulaires ?
Alors, ce n'est pas les Insulaires, c'est le festival du film insulaire. Deux choses différentes. Voilà.
Ça se regroupe.
Exactement, c'est toujours cette thématique de l'insularité. Le festival du film insulaire de Groix, c'est tous les ans fin août. J'y suis allé 3-4 fois, à chaque fois, montrer les films que j'ai fait à Lille-Dieu. C'est exceptionnel. Franchement, on rencontre des insulaires du monde entier. On a l'impression que c'est des cousins. Il y a une ambiance géniale.
Est-ce que les problématiques sont les mêmes ?
Partout. La problématique des déchets. Je me souviens d'un film à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la problématique des déchets. C'est Lille-Dieu, quoi. Et ça peut être dans plein d'autres endroits du monde. Il y a quelque chose qui nous relie et c'est hyper fort. Et puis, voilà, l'ambiance à Groix, c'est exceptionnel.
Frédéric Violot, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à Neptune FM.